bonjour à tous. Merci d'être venus ce samedi matin pour à la rencontre d'une auteure dont on avait découvert le talent déjà en 2010. Elle était venue nous voir. Je ne sais pas si elle s'en rappelle elle-même. La première matinale polar samedi matin pour un premier coup de cœur qu'on avait eu le rayon. On avait fait un coup de cœur sur notre site qu'on peut encore lire sur le site Mola pour Quai des Enfers, donc son tout premier, sa toute première incursion dans la série noire chez Gallimard. Et donc 7 ans après, elle vient nous voir pour son troisième roman, Après Angle Mort, qui est sorti en 2013. Elle revient donc pour Haute Voltige, un roman impressionnant donc déjà par la taille. Donc si on prend les précédents, donc c'est de ça va crescendo dans l'épaisseur, mais en même temps on est totalement subjugué, on part à l'aventure de façon avec un grand A. C'est un polar qui nous fait prendre de la hauteur dans tous les sens du terme, et on a beaucoup aimé. Nous à la librairie, on est ravis de recevoir de nouveau Ingrid Astier. Alors en reprenant le fil des deux précédents, vous aviez annoncé une sorte de trilogie du fleuve. Donc on s'attendait que le troisième volume, qui est Haute Voltige, serait la conclusion de cette trilogie. Or, non. Alors on est toujours à Paris, la scène est toujours là. Elle charrie toujours les morts et les vivants. Mais ce n'est pas la brigade du fluvial que vous avez mis en scène cette fois-ci, contrairement aux deux premiers. C'est la BRB. La brigade de répression du banditisme, avec de nouveaux personnages, donc de flics qui vont mener une enquête. Là, pas sur la scène, mais dans les hauteurs surtout. Alors, quel a été le motif de ce revirement? Comment s'explique cette surprise pour le lecteur, donc?
Bonjour à tout le monde, et puis bravo de vous offrir à la littérature un samedi matin. C'est bien de partir à la rencontre des mots, au moins des mots qui sont pesés, parce que les mots de la littérature, et c'est ce que j'aime, c'est que c'est des mots qui ont des racines, c'est des mots qui ont du sol, et ce n'est pas une parole ni publicitaire, ni justement déformée par la démagogie. Donc c'est vraiment ce qui me fait plaisir à chaque fois que j'ouvre un livre, c'est que j'ai l'impression de retrouver une forme de virginité du langage, où le langage est là pour l'émotion, et non pas pour l'argumentation ou une forme de rhétorique dévoyée. Donc voilà, nous sommes au bonheur des mots ce matin. Et pour répondre à votre question, parce que je ne l'ai pas oubliée, ça fait quand même partie du roman policier déjà de détourner les attentes. Donc c'était pas mal finalement d'annoncer une trilogie du fleuve et puis de ne pas livrer ce troisième tome, de partir dans des chemins de traverse, parce que c'est aussi ce que j'aime, c'est répondre à mon désir. Je trouve qu'un roman ne doit pas répondre à une commande ou à des prévisions. On n'est pas dans les statistiques, on n'est pas dans cet algorithme de la langue. Et d'un seul coup, j'ai eu un coup de foudre pour un fait divers qui m'a complètement retenu et absorbé. C'était vous le connaissez sûrement, hein, le casse du musée d'art moderne de la ville de Paris. Et c'est pas tant le vol en lui-même qui m'a plu que le profil de ce cambrioleur qui était complètement atypique. C'était un Serbe taiseux, solitaire, qui était capable d'escalader n'importe quelle façade de Paris. Et c'était pour la brigade de répression du banditisme leur plus beau phénomène. C'était vraiment un spécimen, vous voyez, comme on peut parler d'un spécimen rare. Il y a des plantes rares, il y a aussi des destinées rares. Et même s'il était du côté du crime, au sens où il commettait des vols, c'est quelqu'un qui n'avait jamais commis de violence. Et c'était quand même un cas vraiment à part. Et même à la brigade de répression du banditisme, il disait que c'était quelqu'un qui les fascinait, vraiment, parce que justement, il avait un vrai goût pour l'art. La seule chose qu'il semblait apprécier, c'était l'art. Il n'avait pas d'amis. Juste un SDF. Il vivait, lui, le vrai. Il vivait de façon vraiment solitaire. Et sa passion, c'était la contemplation du beau à travers les œuvres d'art. Donc, c'était l'escalade, Patrick Hedlinger, c'était son modèle, et les œuvres d'art. C'est quand même assez surprenant. Donc, là, en tant que romancière, on se dit, mais il y a un sujet en or par rapport à une personnalité qu'on a envie de sonder. Je pense que ça marche par cette aimantation. C'est un roman, c'est d'abord et avant tout avec qui on a envie de passer des années. Parce que vous voyez, c'est un peu comme une alliance, hein. C'est vivre avec des personnages. Donc c'est comme si vous disiez, ben tiens, j'aime paxer avec tel personnage pendant 3 ans et demi. C'est ce qui se passe. Il faut bien voir ça. C'est que on n'est pas dans l'écriture pelliculaire au sens où on se frotte la tête et les mots tombent. Hein. C'est vraiment aller investir comme ça une âme, une psychologie et séjourner dans l'autre. Donc là, j'ai vraiment eu envie de séjourner dans l'âme de ce cambrioleur. Mais après, moi, je ne suis pas du tout une romancière réaliste au sens strict. C'est-à-dire que le réalisme pour le copier-coller n'a aucun sens. Sinon, pourquoi l'art ? C'est évident. Hein, pour moi, l'art, c'est vraiment une façon de sublimer le réel, de le rêver, de le révéler aussi par une forme aussi de subduction, vous voyez, comme au sens géologique, où il faut extraire ce qui peut contenir l'émotion, ce qui peut susciter un réveil des consciences aussi. Donc le copier-coller n'a vraiment aucun sens. Et d'ailleurs, faites l'expérience, lisez le fait divers du cambrioleur du Musée d'art moderne de Paris. Et moi, à chaque fois, ça me fait ça, c'est que je sens un déclic, je sens une attirance, mais vous n'allez jamais sortir de la lecture d'un pur fait divers ou de l'avoir vu à la télévision en vous disant oh, « mais vraiment, ce type est incroyable, je veux en savoir plus ». Ça ne va pas vous envahir. Ça va vous intéresser, mais ça ne va pas vous posséder, voyez. Alors que pour moi, la littérature, c'est de la possession. On est possédé quand on écrit. On est possédé pas au sens de la folie qui nous échappe, mais quand même, on frôle avec cette limite, c'est-à-dire qu'il y a une grande jouissance à être débordé par le personnage, à ce qu'il vous absorbe, à ce qu'il vous imprègne, et finalement à ce qu'il fasse corps avec vous. Et moi, j'aime ce corps à corps avec le personnage.
Et donc, une écriture qui vous a pris donc apparemment donc plus de 3 ans, donc d'où le silence relatif, parce que vous ne faites pas que écrire des polars, vous écrivez aussi d'autres choses.
Alors pas beaucoup, mais oui, il y avait le petit éloge de la nuit qui était vraiment important pour moi. Ça a été une pause. Vous imaginez combien un monstre pareil, hein, c'est un roman cathédrale, c'est un roman qui pèse au sens où il vous écrase aussi. Hein. Mais ça me dérange pas en même temps. J'aime bien que les choses elles aient du poids dans les mains. Quoi. C'est aussi ça la littérature. Ce que je vous disais, on est parti de ça, mais c'est ce poids des mots qu'il y ait cette présence très très forte. Hein. C'est Victor Hugo. Il disait le mot est un être vivant. Et je pense que à chaque fois que vous lisez une page qui vous plaît, vous le ressentez aussi cette vie, cette vibration aussi de la page. Hein. C'est autre chose que la notice pharmaceutique ou que la lecture d'une lettre de rappel. Vous voyez, on est vraiment dans un usage du langage qui est complètement différent. Vous êtes bien d'accord, hein. Et c'est ce que j'aime, c'est que le mot il rayonne dans la phrase. Il y a un côté solaire, il y a un côté aussi presque nucléaire. Vous voyez, c'est
Oui, c'est un monde. Vous lire, que quoi qu'on lise, et Old Voltage est peut-être le summum de votre écriture dans cette exploration. En effet, il y a un monde tout en clair-obscur. Quoi, ce que vous aimez. Vous aimez.
Ah oui,
vous
aimez, ce travail de peinture, oui, absolument. Oui.
Vous aimez, pour ça que aussi vous aimez certainement Hugo, quoi, parce que voilà, c'est le noir, c'est le profond, c'est l'absolu, mais en même temps, c'est les touches de lumière que permet l'image, la métaphore, le déploiement de l'imaginaire. Et c'est un monde, oui, féerique, noir. Mais en même temps très beau. Alors dans le petit éloge de la nuit que j'invite les lecteurs à se procurer, donc bien sûr la nuit, puisque c'est, enfin, on est baigné dans Paris, on est baigné dans cette atmosphère nocturne, notamment dans le petit éloge de la nuit, il y a beaucoup. Alors vous déployez votre verbe, votre phrase en longueur, mais en même temps vous avez des sortes d'aphorismes quelquefois, des choses des étincelles.
Exactement, et qu'on retrouve dans Haute Voltige. Si on est très attentif au calque de la phrase, aussi cette patte en fait, on se rend compte qu'il y a toujours ces îlots. Moi, je suis quelqu'un de très insulaire. J'adore les îles, j'aime bien écrire sur les îles, que ce soit l'île Dieu, l'Irlande. Je suis une grande amoureuse de l'Irlande, du Connemara et de ces îles, justement. Et finalement, je pense que cette attraction géographique, hein, et aussi ce climat qu'il y a sur une île, ce côté d'être vraiment d'être en retrait Parce qu'aussi, la parole du roman, c'est une parole en retrait qui va s'abstraire un peu du magma, du conditionnement, de tout ce qu'on nous inflige hein, comme discours. Et donc, tout se rejoint. C'est vraiment à la fois ce retrait, cet isolement. Je dis toujours que je me retire en écriture, comme l'océan, vous voyez. Et on retrouve cette parole insulaire dans Haute Voltige. Il y a beaucoup de phrases. Si vous faites attention, que vous pouvez extraire et qui ont une forme de gravitation solitaire.
Donc j'en lis quelques-unes comme ça prises au hasard, parce que c'est une sorte de petit abécédaire en même temps. Donc c'est des voilà, là aussi c'est fragmenté. Là aussi il y a une écriture à l'intérieur de ce petit texte. Il y a des choses qu'on peut extraire comme ça. Cauchemar. Le cauchemar est la fleur vénéneuse de la nuit. Fleur vénéneuse ou plante carnivore? Et juste après l'article qui s'appelle Certitude. Dans le roman policier, la nuit s'empare des hommes comme des certitudes. Et après, il y a un article aussi sur Chat Noir, que j'aime beaucoup, avec le Chat Noir de Raymond Chandler, et qui devient après un policier, le nom d'un policier, enfin le surnom d'un
qui
policier.
Qui est le vrai surnom d'un des plus grands policiers de la brigade criminelle, qui était celui qui avait fait Away Guy Georges. Et son surnom, c'est Chat Noir. Et donc j'expliquais qu'à force, enfin pour moi, il est tellement Chat Noir que maintenant, quand je le vois, il y a comme une sorte de chat qui surimprime au visage, et à chaque fois, ça me fait rire. Donc dès que je le croise, je suis morte de rire.
Et potentiel aussi... potentiel de mise en voix aussi de ce texte puisqu'il est mis en voix enfin il était mis en voix il,
ça carrément mis en scène en fait
mise en scène, hein, mise ouais, en scène ouais, et, ouais. Et interprété par un comédien de talent qui lit ce texte ou qui l'interprète.
Non, c'est vraiment une pièce de théâtre. Ça a été mis en scène au Théâtre du Rond-Point avec Pierre Richard, donc un comédien effectivement de talent et que j'admire parce que justement on connaissait un Pierre Solaire, mais on connaissait beaucoup moins le Pierre Lunaire. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup chez Pierre Richard. C'est que, déjà, je trouve qu'il a une voix, vous savez, une voix caverneuse, mais au beau sens du terme, vous savez, où quand vous êtes dans une caverne, bah, un peu comme notre climat de ce matin, mais tout résonne et il y a un climat qui s'installe, qui est propre à la confidence aussi, et qui crée une forme d'intimité. Et en vieillissant, Pierre Richard, il a vraiment cette voix comme ça, très, très profonde. Et ça me donne l'impression en fait d'aller tout au fond. Vous savez, c'est un peu comme avec Jules Verne, c'est Voyage au centre de la Terre, juste à l'écouter quoi. Et c'était magnifique parce que donc ça a été mis en scène au Théâtre du Rond-Point pendant un mois dans une mise en scène de Gérald Garuti. Et donc ce texte a vraiment vécu dans toute sa dimension. C'était pas une lecture avec un micro. Et c'est là qu'on se rend compte que Pierre Richard il a gardé aussi toute son énergie. C'est quelqu'un qui transcende l'âge, c'est merveilleux. Et aussi parce que la littérature, ça permet de rester jeune. Hein. Ça, c'est... Parce qu'on a toujours une âme d'enfant. Dès qu'on a gardé le rêve, hein, dès qu'on sait s'ouvrir au rêve, on vieillit d'une autre façon.
Alors, est-ce donc aussi naturel et une évidence, une logique d'avoir choisi aussi l'écrin du roman dit policier pour écrire que le criminel est un être dévoré par sa part d'ombre, que la nuit, elle est bien sûr propice à la nuit blanche, à lire des polars. Est-ce que tout ça, ça s'inscrit naturellement chez vous, le genre, l'avoir choisi ce genre, ou est-ce que c'est lui qui vous a choisi ?
On ne choisit pas un genre, on choisit une écriture, on choisit une musique. Donc ce qui m'appelle quand je me mets à table, et là c'est vraiment à table avec les mots encore une fois, si je suis pas en train de me dire dans quelle catégorie on va me classer à la librairie Mola. En plus c'est immense, donc ils ont le choix, hein, ils pourraient nous mettre dans plein de rayons. Ça, je trouve que c'est votre travail et c'est ce que vous faites bien aussi. C'est de travailler notre couleur, de l'expliquer, d'être les passeurs de ce rapport chromatique. Mais quand on écrit, on est vraiment appelé par des voix, mais au sens encore une fois très rationnel du terme, c'est on a envie d'être habité, d'être traversé par tout cet océan, ce flux des voix autres, parce que, encore une fois, c'est une telle chance de pouvoir être les personnages, de pouvoir abandonner son identité, mais comme vous en tant que lecteur. Regardez, c'est une jouissance qui est commune entre vous et moi. C'est-à-dire qu'il y a ce plaisir d'ouvrir, mais comme on ouvre un monde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez ressenti ce rapport un peu sacré quand on ouvre un livre, qu'on le fait sien d'ailleurs, on casse la tranche, ça devient vraiment notre royaume. Et d'un seul coup, c'est comme si on était, on se retirait aussi en tant que lecteur, et le monde extérieur devient quelque chose de beaucoup moins présent et oppressant. Parce que ça peut être très oppressant, comme ça cette sensation d'être un tout petit fragment avec cette pression de l'autre, du jugement, de aussi une image qu'on s'est construite et qu'on doit garder. C'est ce que je dis aussi, c'est pour ça que j'avais écrit le petit éloge de la nuit, c'est que je trouve que la nuit, on a un peu ce même rapport que dans l'écriture, c'est qu'on se rejoint. On rejoint un être beaucoup plus sincère en nous, beaucoup plus passionnel aussi, beaucoup plus émotif. Et c'est très agréable, vous savez, de se glisser dans la peau de la nuit comme ça et de retrouver un dialogue avec soi-même. C'est ça aussi, vous avez dû le ressentir, hein, où parfois on est un peu effrayé parce que ça fait remonter plein de désirs, de fantasmes, de projections, aussi de ce qu'on aurait pu vouloir être. Et on s'est peut-être distancié de ses rêves d'enfant. Donc c'est à la fois quelque chose de délicieux et qui peut être un peu perturbant la nuit. Et finalement, on partage cette nuit ensemble à chaque roman. Parce qu'on se glisse dans la peau de l'autre et on fait disparaître le monde extérieur. Donc ça, pour moi, ça relève de l'évidence. C'est en fait cette autre réalité qu'on bâtit à travers les mots qui, pour moi, n'a pas de couleur. Elle n'est ni blanche, elle n'est ni noire. C'est une musique qu'on va partager le temps d'un roman. Et après, d'ailleurs, elle peut vous imprégner, cette musique. Et c'est ce que j'aime. Moi, j'aime pas que les romans. Vous savez, aujourd'hui, on parle toujours, et avec une sorte de presque de manie, du page turning. Alors, à chaque fois, en plus, il faut qu'on emploie des anglicismes pour dire des choses comme ça, alors qu'on pourrait le nommer bien autrement. Mais il y a quand même, vraiment, si vous lisez les critiques, c'est à chaque fois on dit, oh là là, mais vraiment, on est dans le page turning. Alors, le page turning, ça veut juste dire que on tourne les pages. Et alors, pour moi, c'est une conception complètement, mais étrange, de la littérature. Pourquoi ce serait une qualité dans cette sorte de frénésie? Tout est frénétique autour de nous. Tout est frénétique, vous voyez. Il faut que tout aille vite, alors qu'en fait, on voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas en brusquant le rythme. Hein. Ce n'est pas parce qu'on peut envoyer des SMS en un clic ou un mail que vous voyez que votre commande elle arrive plus vite. Au contraire, vous avez vu comment le monde, finalement, ne répond plus. Il ne répond plus parce qu'on est dans cette frénésie. Et que, comme le rythme humain, lui, n'est pas dans la frénésie, regardez combien de temps il faut pour se remettre d'un chagrin d'amour, par exemple. Ça ne se fait pas en un clic. Parfois, il faut des années. Vraiment, il faut qu'il y ait encore une fois ce respect de toute cette géologie, de toutes ces strates. Et donc, moi, j'aime bien les romans à sillage. C'est-à-dire où, quand on a refermé le roman, et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand Ondine Millau, donc, qui avait fait le reportage dans Aime le Monde, le magazine du Monde, qui m'avait suivi pendant plusieurs années, hein, sur l'immersion en fait de Haute Voltige, elle m'a dit, mais je vois Paris avec les yeux d'Ilana, donc les personnages du roman, avec les yeux d'Ilana, avec les yeux de Ranco. Elle m'a dit, et surtout maintenant, je lève la tête, je regarde les toits, je m'imagine vraiment cette vie, je m'imagine Simon Noguera, le champion de France de parcours, qui est aussi un des personnages du roman. Elle dit, mais je l'imagine en train de voltiger, de faire ses acrobaties, de rechercher cette ligne parfaite, comme l'écrivain finalement. On est des traceurs de lignes, hein, Simon Noguera comme moi. Et ça me fait plaisir. Ça me fait bien plus plaisir que si on m'avait dit, on a l'impression encore une fois qu'il faut être dans la performance. Après, j'aime le rythme, hein. C'est une autre question. Mais je trouve que le rythme est bien plus intéressant que juste... Vous voyez, c'est quand même très étrange. C'est notre monde aujourd'hui.
Même si Haute Voltige, j'en ai fait pour parler des personnages, pour aller un peu dans l'intrigue, sans trop dévoiler non plus tous les deux ressorts, c'est impossible parce que ça se déplie comme vous dites, quoi, dans le temps. Et il faut le savourer de façon propre, vraiment, parce que c'est aussi un festin que vous nous conviez, quoi. Il y a des pages absolument extraordinaires qu'on trouve, voilà, qui est votre marque aussi, quoi, qu'on trouve pas ailleurs,
et qui pose la question du genre, d'ailleurs, hein. Oui, pour revenir à votre question, par exemple, il y a une scène de banquet, que j'aime beaucoup, hein, qui est Ça vous cassera pas du tout la lecture. Hein, c'est une scène sur une péniche, parce que quand même on retrouve la scène. Hein, mais une scène euphorique. Hein, c'est avant, donc il y a des enfers, il y avait la scène des silures. Vous savez, c'est très grands poissons qui viennent du Danube, qui sont gigantesques avec des gueules presque de bottes de pêcheurs, vous voyez, de caoutchouc. C'est très étrange. Mais en même temps, moi j'aime bien les silures, ça me fascine.
Et là, vous me promettez un baptême. Des esturgeons.
Voilà, exactement. Donc, vous voyez, on passe à une scène très différente. Avant, il y avait les silures, maintenant, il y a les esturgeons. Donc, on est quand même monté en grade dans les poissons qui figurent dans le roman. Et ça, c'est une scène que j'ai vraiment adoré écrire, hein, où on a un grand banquet qui est plus du côté de Huysmans, avec ce choix des couleurs, des saveurs. Je pense que là, on est très, très loin du genre, de cette veine. On est très très loin du page turning pour le coup, hein. C'est fait vraiment pour ouvrir, pour déplier en vous plein de petites sensations, plein de petites émotions. C'est plus le calendrier de l'Avent où on ouvre fenêtre par fenêtre en fait quelque chose et où ça déploie un univers. C'est très patient comme travail.
Oui, parce que pour vous dire aussi, Ingrid Assier, alors malheureusement on n'a pas pu les porter parce qu'ils sont épuisés chez l'éditeur, mais elle est vraiment une épicurienne, donc on retrouve dans l'écriture cette sensualité des mots et des mets. Vous avez écrit dans plusieurs livres de cuisine.
Souvent on dit livres de cuisine, et là je me permets de vous reprendre.
Inspirés.
Parce que c'est des livres. Allez tout de suite comprendre celui qui était mon plus gros travail de plusieurs années, Cuisine Inspirée. Ça s'appelait Cuisine Inspirée, l'audace française. Et ça s'ouvrait sur Bartabas, qui est un maître écuyer. Et ensuite, on trouvait dedans déjà Pierre Richard. Donc, dans un livre de cuisine, Bartabas, Pierre Richard. Il y avait Eugène Durif, qui est un des plus grands dramaturges. Donc là, on retrouvait mon amour du théâtre. Donc, souvent, on dit livre de cuisine, mais c'était pas des livres de cuisine. C'était des livres, en fait, qui créaient des passerelles entre le goût, les odeurs, qui montraient comment un maître écuyer, Bartabas, pouvait avoir, en fait, la même mentalité qu'un chef trois étoilés comme Alain Passard. Donc, je croisais les deux, je croisais les gestuels, je croisais les langages. Donc, c'était. Et il y avait plein de poésie dedans. Il y avait tout le temps de. Parce que j'adore la poésie, hein, pour moi c'est le réveil de la langue. Et donc il y avait plein de citations à chaque fois de René Char, de Ponge. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois quand on me dit que c'est des livres de cuisine, je me dis. Et je comprends le raccourci complètement. Mais c'est tellement loin de la réalité. Et ça fait qu'on.
Oui, c'était pas des recettes, oui, il n'y a pas de.
Il y avait des recettes aussi, parce qu'il faut être dans ce côté pratique, manuel, technique que j'aime. Je suis passionnée par les techniques. J'adore, on le voit dans mes romans. J'adore les remorqueurs pousseurs, j'adore les hélicoptères, on voit les hélicos dans haute voltige.
Les armes aussi, vous êtes.
Alors, ça ne veut pas dire que j'adore les armes.
La précision, le détail sur le tir, on voit que vous avez vous-même pratiqué le.
Ah oui, ça c'est. Enfin, je suis un écrivain de la pratique, quoi. Ça c'est sûr que j'aime bien vous délivrer quelque chose de très précis, de très solide.
Vous n'aimez pas vous documenter, vous aimez vous immerger vraiment dans l'art et les pratiques. L'atelier d'Enki Bilal, dont on va revenir. Avec Ilana, le personnage, et Ranko, le milieu de la police, bien sûr, la brigade fluviale, la BRI, la BRB, tous ces univers-là vous aimantent et vous en servez comme une sorte comment justement, quel est votre. À partir de là, comment vous travaillez ?
En fait, on va revenir au fait divers pour répondre à cette question. C'est que pour moi, le fait divers, c'est une pâte froide. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas très excitant.
Mais comment vous incarnez tout ça ?
Et voilà, exactement. C'est le mot, vous l'avez trouvé de vous-même, parce qu'il est logique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'incarnation. Et pour incarner, il n'y a pas 50 000 façons. C'est qu'il faut vraiment savoir de quoi on parle. Sinon, très vite, vous allez être pauvre. Vous allez être complètement infirme. Et j'aime bien que ma plume, elle soit riche de toutes les sensations. Parce que je vous parlais tout à l'heure de ma phobie de la frénésie, hein, que je trouve très néfaste à l'épanouissement et au bonheur de l'être humain. Mais j'ai une autre phobie qui est aujourd'hui le primat de la vue. C'est-à-dire que notre monde devient... Alors, je n'ai rien contre l'image en soi. Hein, j'adore la peinture, j'adore le cinéma, ce n'est pas la question. Mais... Je trouve que de décider que le monde va passer comme ça par ce vecteur de l'image de façon complètement dictatoriale, vous voyez, c'est quelque chose qui appauvrit encore une fois l'être humain. Maintenant, vous ne pouvez plus aller dans un endroit sans qu'on prenne des photos, ce qui fait que le moment où il y a la photo, vous n'êtes plus là en fait. vous n'êtes plus là. Et ça casse aussi, c'est parce que c'est un barrage. On ne se rend pas compte, mais rien que l'appareil photo entre vous et moi, c'est un barrage. Il n'y a plus de visage. Moi, je ne vois plus le vôtre. Et vous, vous ne voyez plus le mien, vu que vous le voyez à travers ce vecteur. Et je lutte vraiment pour qu'on retrouve un vrai rapport. Un rapport d'immédiateté, un rapport de partage, un rapport très, très frontal à l'individu. Et en même temps, un rapport où on est présent. D'où mon amour de la poésie. Parce que la poésie, c'est la présence de la langue. C'est d'un seul coup le mot qui est là, qui est vif, qui est... C'est pas du tout un poisson mort, vous voyez. C'est ça qui est beau. Et donc, dans mes romans, ce qui m'intéresse, c'est de déployer tout autant la vue que le toucher, que l'odorat, parce que j'ai une passion aussi pour les parfums.
Mmh. Oui, on le retrouve, alors, bon, voilà. Surtout dans le Quai des Enfers, puisque, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont lu, il s'agissait d'une carte de parfumeur qui était l'ami du policier qui était retrouvé dans la barque qui est amarrée au quai des Orfèvres, au 36 Quai des Orfèvres. Ça a commencé comme ça, donc on découvre le cadavre d'une jeune femme enveloppée dans un linceul, une magnifique femme qui se révèle être mannequin.
S'inspirer du bateau ivre, en fait. Oui. Hein, et puis d'Ophélia, beaucoup d'Ophélia avec cette femme sur la barque qui dérive. Hein, j'étais complètement... On revient à la poésie. Il n'y a rien à faire. À chaque fois, la poésie revient au galop. C'était vraiment... C'était cette pâle Ophélia, belle comme la neige, qui a dérivé comme ça à travers les roseaux. Et ben, ça m'a donné complètement le motif de départ de Quai des Enfers. J'ai rêvé de cette Ophélia sur la Seine. Et donc, j'avais aussi écrit Le goût des parfums au Mercure de France.
Voilà.
Et pour.
Le goût du thé, de la rose, du champagne.
Voilà, c'est pour nourrir votre question à nouveau, c'est comment on incarne ça dans Quai des Enfers, je m'étais dit, il faut travailler avec le vrai nez parfumeur, le créateur de parfums de Rochas et de Jean Patou, qui était Jean-Michel Durier, pour qu'il me crée une vraie formule de parfum. Ce qui s'était jamais vu entièrement dans un roman avec les vrais laboratoires, Firmenich, Yvaudan, il y a les initiales à chaque fois, hein, si vous regardez dans Quai des Enfers, avec les pesées. Donc là, on allait jusqu'au bout du secret. Et c'était pour moi une sorte de manifeste de la littérature. C'était de vous montrer que la littérature va bien plus loin que le documentaire, bien plus loin que n'importe quelle, en fait, investigation, entre guillemets, parce que nous, on a la liberté. On a la liberté d'aller aussi loin qu'on veut. On n'a pas de frein, on n'a pas d'impératif économique, on n'a pas été payé par les sociétés pour faire de la publicité. Et c'est une parole qui est à la fois libre et qui peut aller très très loin. Donc ça m'intéressait de me dire, moi, avec le vrai nez parfumeur, vous allez avoir l'impression de rentrer dans ce vocabulaire, dans cette langue, parce que c'est aussi ça, c'est, il faut distribuer les différentes voix, donc avec chacun sa voix pour les personnages. Et ça, c'était une façon de l'incarner, de la même façon que pour la brigade de répression du banditisme. La première chose qui m'a retenue dans leurs locaux, alors c'est ce que qu'aucun documentaire ne vous aurait jamais montré, c'était le perroquet. Il y avait un gris du Gabon, il y a vraiment un gris du Gabon dans un des bureaux. Et c'est un très beau perroquet, vous savez, gris avec un tout petit peu de rouge. Donc le rouge devient un très... très, très présent, comme il émane du gris comme ça. Et c'était fascinant de se dire qu'il y avait ce volatile qui d'un seul coup volait comme ça au-dessus de votre tête. C'était dans la pièce. Et en fait, c'est la mascotte de la brigade de répression du banditisme. Alors ça peut sembler anecdotique comme ça, de se dire, mais pourquoi ça l'intéresse tant, le perroquet? Et en fait, si vous réfléchissez à travers l'animal, il y a toute une part émotive qui n'est jamais verbalisée, et qui d'un seul coup devient flagrante. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que ces policiers, après, ils doivent organiser leur garde en fonction de qui est-ce qui est bien capable de s'occuper du gris du Gabon. Ils ne peuvent pas partir en vacances sans faire un calendrier par rapport à ça. Et quand le gris du Gabon est tombé malade, ce que j'ai dit dans Haute Voltige, ils sont tous cotisés pour qu'ils soient soignés à la clinique des oiseaux. Enfin, là, on se dit, c'est une autre vision de ces... C'est quand même des grands policiers, c'est-à-dire c'est à la BRB, c'est les plus grandes affaires du banditisme. Et on voit toujours leur côté action, leur côté comment ils gèrent les attaques de convoi, tout ça. Mais on ne va pas les voir sous un angle plus sensible et plus humain, en fait, tout simplement. Hein.
Et donc justement, Haute Voltige s'ouvre sur une scène proprement parlée d'action, on peut dire ça comme ça, très cinématographique, une sorte de western en pleine autoroute, qui amène de très belles voitures vers le Bourget, l'aéroport du Bourget, à leur bord un très riche saoudien, Nasser al-Jaber, qui va être braqué il va tomber dans un piège, il va être braqué, il y aura une explosion dans un tunnel de Saint-Cloud. Chose totalement ahurissante, et c'est là où le lecteur, là, on prend tout on est vraiment captivé par l'imaginaire. Le butin, en fait, n'est pas forcément que celui des milliers d'euros, des bijoux, de tout ce qu'il transporte de façon plus ou moins étrange. C'est un butin humain, une prise de guerre. Donc c'est Ilana. Et là, c'est l'entrée, là aussi, de l'imaginaire, de la féminité, du rêve dans ce monde de brutes. Et donc justement, Ilana, comment elle vous a été imposée? Parce qu'on pense aussi à Adriana, la trapéziste de Angle Mort. Enfin voilà, c'est des figures féminines comme ça qui sont extrêmement des créatures de rêve à tout point de vue. Comment elle est née, Ilana, dans ce monde entre la BRD, le GECO, Ranco, quelle place elle a prise?
Déjà dans les mondes qu'on va qualifier d'assez viril, hein, mais sans le stigmatiser, hein, comme la brigade de répression du banditisme ou comme le milieu des voyous. Moi, j'aime bien que en fait l'élément féminin est toujours l'élément. Vous savez, le grain de sable qui va semer la zizanie par rapport à une sorte de préméditation, d'organisation, de quelque chose de très carré et pour schématiser, hein, même si j'aime pas du tout me réduire au schéma, mais c'est comme si par rapport à ces carrés, ces cases très, très solides, un peu, vous voyez, un peu comme ça, eh bien, on avait cet élément féminin, cette rondeur, on va dire, ce cercle, qui va essayer de donner une forme plus ronde au carré. Et ça m'intéresse de voir quel désordre ça peut semer, comment, par rapport à toute cette géométrie, il y a comme une déprogrammation de l'homme par la femme. Et c'est vraiment ce grain de sable, un peu comme le chien dans un jeu de quilles, qui va toujours semer soit de la poésie, soit de la zizanie, mais en même temps qui va introduire finalement un désordre qui est la vie. C'est la femme dans ce roman, c'est vraiment la vie au sens noble du terme, parce que c'est elle qui apporte l'intensité. Pour moi, elle incarne un peu la poésie finalement, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérament, qui a beaucoup de présence et qui va par miroir en fait donner encore plus de présence à l'homme. D'un seul coup, il va sentir exister. Il va sentir que par projection, elle le révèle à lui-même, elle lui renvoie une image où il sent vivre, où il est là. Et c'est comme s'il était obligé de bénir son malheur, parce qu'il sait que ça peut pas bien se terminer, des histoires aussi passionnelles, aussi intenses. Mais en même temps, qu'est-ce qui vaut mieux? C'est avoir toute une vie où on vit finalement en dessous de ce que l'on peut être, ou est-ce que l'on choisit de vivre l'instant, de se dire, je préfère 10 minutes de ma vie qui vont être des minutes où je me sens mais tellement présent, tellement racinaire, avec des radicelles de partout, et puis un rapport aussi à l'élévation et céleste par ce transport qu'est l'amour, ce transport amoureux, vous voyez. Et qu'est-ce que je préfère? Et ça, on revient à Faust, en fait, hein, au mythe de Faust. Hein. C'est Goethe. Hein. Vous savez, c'est Faust qui dit qu'en fait, il veut retenir l'instant. Il est prêt à se pacte avec le diable, parce que ce qu'il veut, c'est juste sentir à nouveau la vie en lui, et plus être dans cette forme de léthargie morne, où plus rien ne se passe, où on est dans un gris continu, où on attend la mort, finalement. Et si on réfléchit, dans Haute Voltige, ça vous l'avez très bien senti, hein, c'est que finalement, tout est une sorte de mise en abîme pour refléter la littérature. C'est-à-dire le choix, la liberté, l'art, et en même temps, Ilana qui incarne la poésie.
Ilana aussi, ce qui est une jeune femme assez paumée, perdue elle-même et perdue de voilà, elle a envie d'être aimée, on le sent aussi, donc c'est pour ça que le lecteur aussi veut la protéger. Elle apparaît comme une sorte de aussi son modèle. Alors elle, c'est pas le modèle du grimpeur du monte en l'air, parce qu'on va très vite parler du Gecko, de Ranko, mais c'est un autre modèle, c'est un modèle artistique. Même si elle se présente comme une créature un peu bimbo, elle est totalement imprégnée de l'univers d'un artiste, et en cela elle se rapprocher justement, dangereusement, de Ranko, de ce monte en l'air avec lequel elle va trouver une sorte de double. Et donc alors l'univers d'Enki Bilal, puisque justement c'est cette héroïne, elle a les cheveux à pointe mauve, donc comme les héroïnes d'Enki Bilal à pointe bleue, comment ça s'inscrit dans cet univers artistique là aussi, ce rapprochement avec le casseur, le
Alors là, il y a plein de motifs qui entrent en jeu. On est vraiment dans la fabrique de l'imaginaire. C'est très là.
Enki Bilal, c'est totalement. Enfin, là, j'ai porté qu'un des albums. C'est même si vous parlez beaucoup
De Froid Équateur.
De Froid Équateur, ouais. qui est une bande dessinée que Enki Bilal a fait en 92, donc il y a plus de.
Et puis aussi, vous savez, de Roméo et Juliette, voilà. Qu'il avait peint, et ça, c'est ça, en fait. À la limite, s'il y a une image qui peut résumer Haute Voltige, c'est Roméo et Juliette.
J'ai essayé de faire avec mon imprimante, c'est pas très très probant, mais voilà une des.
Quand on voit le, il y a plusieurs versions en plus du Roméo et Juliette. Oui. Il avait fait les costumes de l'opéra qu'il y avait eu. Mais ça, c'est un dessin qui vraiment me je sais pas comment vous dire. Il y a une forme de je suis happée par ce dessin, vraiment, par cette peinture. Et ça, c'est vraiment Haute Voltige, parce que l'homme, il porte la femme. Donc il y a ce rapport, parce qu'Ilana, à l'origine, elle était patineuse artistique. Donc on retrouve finalement comme ces figures de patinage artistique. Ça aussi, ça m'avait toujours épaté, le rapport entre l'homme et la femme dans le patinage artistique. Vous voyez ? Qui est-ce qui est la force de l'autre, en fait ? Ça, c'est... Qui est la force de l'autre ? Est-ce que c'est celui qui porte ? L'homme est réduit finalement à cette fonction de porteur, et elle est dans ce rapport de voltige, aérienne, gracile. Mais c'est bien plus complexe que ça. Vous voyez, c'est bien plus complexe que ça. Et en même temps, l'un ne peut pas être sans l'autre. Et ça, c'est toute la base de la construction entre les rapports homme-femme dans Haute Voltige. Et après, ce que j'aime dans cette œuvre d'Enki Bilal, Roméo et Juliette, c'est que Il y a une sorte de force de la femme et de fragilité de l'homme, alors que c'est l'homme qui porte. Voyez, et on se demande ce qu'il porte à travers la femme. Est-ce que c'est que la femme, ou est-ce que c'est aussi toutes ses blessures? Est-ce que c'est ce poids aussi d'être réduit à cette fonction d'être celui qui doit porter, qui doit être la force? C'est lourd de devoir être tout le temps la force. Voyez, c'est lourd de devoir être le pilier. Je trouve qu'il y a une forme de tragédie à ça, d'être cantonné à ce rôle. Comme pour la femme, il y a des moments, c'est pas évident de devoir être celle qui doit toujours être protégée. Il y a des moments où aussi on se rebelle et on a envie d'être celle qui sait se débrouiller. Et ça, je trouve ça très touchant. Et je trouve que ça, en fait, ça balaye complètement la question du féminisme, parce qu'on est dans quelque chose de bien plus essentiel que ça. Alors je veux pas dire que le féminisme n'est pas essentiel. Comprenez-moi bien. Hein, c'est que pour moi, là, on touche quelque chose qui peut vraiment concourir à une vraie harmonie entre l'homme et la femme, c'est-à-dire d'être conscient de cette répartition des rôles qui peut être vraiment tragique et qui peut au contraire scinder et faire qu'il n'y a plus de communication si on n'est pas sensible à la part justement fragile que peut avoir l'homme et à cette part aussi de force que peut avoir la femme. Donc je trouve que ça, j'aime bien ce déplacement des forces, quelque chose qui devient bien plus complexe et qui fait qu'on retrouve un dialogue, on retrouve un vrai dialogue entre les deux.
Oui, parce qu'Ilana, elle apparaît dès le départ, donc quand elle s'extrait de ce convoi, elle est indemne, elle va ressortir de ce braquage du départ et donc surgir comme ça, comme une apparition. Et c'est vrai que, je ne sais plus quelle expression vous employez, mais vous dites mot virilité en effet, parce qu'elle sait tenir une arme.
Elle sait servir d'une arme en plus, donc ça, les voyous, ils ne s'y attendent pas, vous voyez. Et puis, c'est ça la réalité, elle est intéressante quand elle bouscule. Quand on, d'un seul coup, on se dit, ben mince, c'est toujours cette idée de la déprogrammation. Et c'est ce qui m'aimante dans les romans, c'est que c'est ce règne de la déprogrammation. On se fait tellement plaisir à ça. Et regardez comment on est heureux, même dans un dîner, quand d'un seul coup, il y a une sorte de... Vous savez, un dîner un peu lénifiant, où on s'endort à moitié sur l'assiette en se disant, oh là là, qu'est-ce que je serais mieux dans mon lit. Et ça nous est tous arrivé, hein, il faut bien être sincère. Hein. Et où d'un seul coup... Il se passe quelque chose, un enfant qui va dire ce qu'il fallait absolument pas dire, ou un plat qui d'un seul coup se casse la figure dans un milieu un peu étriqué, et on est heureux de cet accident, parce que l'accident, encore une fois, c'est la vie, cette déprogrammation, c'est ce qui fait qu'on se sent plus une marionnette, qu'on se sent plus obligé de dire ah oui c'est très très bon, vous voyez, on se sent pas vivre dans ces phrases, parce qu'on sait que c'est pas nous exactement qui parlons. C'est une sorte de machine programmée qui doit donner une image polie, convenable, sociable. Et il y a des moments, c'est très bien, c'est ça qui fait qu'on peut vivre en société, hein, mais il y a des moments où on se sent complètement contraint et contrit dans ce rôle où on ne peut plus respirer. Mmh. Et on a envie, et ça c'est une des scènes que je préfère dans Subway, je ne sais pas si vous l'aviez vu, ce film de Luc Besson avec Adjani, mais j'adore la scène où elle va manger chez le préfet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et où elle n'a pas du tout envie d'y aller, parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est de retrouver pour elle la vraie vie, qui est la vie romanesque finalement, avec Christophe Lambert, dans les souterrains. Et donc elle se rend à ce repas, à ce dîner chez le préfet, et déjà, quand la maîtresse de maison ouvre la porte, elle est coiffée en Iroquois, vous vous souvenez ? Elle est coiffée en Iroquois. Et en plus, ça lui va très bien. Alors c'est ça que j'aime, c'est ce désordre qui, d'un seul coup, crée une forme de beauté différente. Et elle est coiffée en Iroquois avec un vison. Donc il y a ce contraste que j'aime. Parce que si elle était tout en punk et tout ça, ce serait pas intéressant. Et c'est là où on rejoint le sublime et le grotesque de Victor Hugo. Et ça, pareil, c'était formidable que vous le sentiez, que c'est ce qui m'intéresse, c'est ça chez Victor Hugo. C'est le mariage du sublime et du grotesque, du laid et du beau, d'un seul coup, qui crée quelque chose de différent. Comme, vous savez, on aime les animaux quand ils ont une tâche qui n'est pas exactement la même, parce qu'on a marre de voir tout le temps la même chose. C'est humain, quoi. Hein, Et j'adore cette scène parce que d'un seul coup, alors je suis toujours nulle pour dire, il y a des gens qui savent très bien dire les répliques par cœur, pas moi pour ça, mais à un moment elle lui dit, monsieur le préfet, votre dîner est nul, vos invités sont nuls, et en fait elle se barre, il n'y a pas d'autre mot, elle se casse, elle les laisse là à cette sorte finalement d'enterrement du vivant qui est parfois la vie sociale.
Et donc justement le lien avec l'art et avec Enki Bilal, qui est justement aussi une autre respiration, une autre fenêtre que vous offrez dans Haute Voltige. Le lien, c'est aussi c'est le lien entre le GECO, donc Ranco, puisque en fait Stéphane Suarez, le commandant de la BRB, traque sans relâche. Donc on a une équipe, il n'est pas le seul, mais bon, c'est le commandant qui traque un montant l'air, donc qui est totalement insaisissable pour depuis 3 mois, il s'obstine, il est ça flic punasse, tenace. Et en même temps, on a Ranko, donc ce personnage de Serbe aussi. Tiens donc, Enki Bilal, ça fait aussi référence à ses origines.
Très cohérent en fait. Hein. En Haute Voltige, on ne se rend pas compte, mais c'est une mécanique très 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 précise. D'ailleurs, vous ferez attention, ça s'ouvre avec des cerfs, des têtes de cerfs. Je me suis rendu compte que même c'était tellement construit qu'il y a des choses qui m'échappaient. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, il y avait aussi un cerf. Et que finalement, c'était comme ouverture et clôture. Donc, même ça me dépassait dans cette façon de bâtir de la cohérence. Et donc, le Serbe, c'était pour ça. Dans la vraie histoire, le vrai cambrioleur du musée d'art moderne, il est croate, il n'est pas serbe. Et je trouvais ça bien plus intéressant de choisir un Serbe, parce qu'on ne connaît rien des Serbes. Et j'ai fait un jour avec un journaliste, c'était un journaliste de l'Humanité qui m'a interviewé. Il me demandait pourquoi les Serbes, c'était pour être original. Je disais, mais non. Je disais, c'est que la littérature, justement, est du côté de la profondeur et du temps. Et des Serbes, on a tous parlé du conflit des Balkans. et avec des propos vraiment catégoriques. Hein. On avait l'impression de détenir la vérité. Et je pense que j'ai beaucoup trop lu Voltaire et tout ce qu'il a écrit sur la tolérance, qui, moi, m'a beaucoup touchée. Hein. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut venir de la patrie de Voltaire? Comment est-ce qu'on peut venir vraiment de ces idées de tolérance qui nous sont chères à nous Français, qui font encore partie de ce qui nous lie, hein, et avoir eu des propos aussi catégoriques, d'avoir diabolisé comme ça les Serbes en entier, en connaissant absolument rien sur eux. Et là, je disais aux journalistes, je disais, on va faire l'expérience. On va appeler le serveur du café où on était pour l'interview et on va lui demander ce qu'il sait sur les Serbes. Alors il me dit, ah bon? Je dis, oui, oui. Je dis, alors je faisais des grands signes et il est venu et j'ai dit, juste une question comme ça, dites-nous comme ça, sans réfléchir, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les Serbes? Et là il m'a regardé, mais alors vraiment, comme si j'avais demandé de lui décrire quelles espèces trouvait-on aux limites de l'Oecoumène en Antarctique, quoi. C'était, je vous assure que c'était ça l'expression. Et puis il me dit, ben rien. Il me dit, je vois pas. Puis alors, comme je sais qu'il y a quand même deux, trois petits détails qui marchent, je lui dis, peut-être un footballeur serbe? Bien oui, oui. Puis là, il me sort le nom du footballeur. Et après, je lui dis, je savais que c'était la deuxième solution où j'avais des chances d'avoir une réponse. Et c'est d'ailleurs dans le roman. Je lui dis, peut-être un tennisman aussi, un joueur de tennis. Et il me dit, ah. Puis alors là, il commence à plus réfléchir. Puis il dit, ah oui, 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 oui. Puis alors, et puis après, il me dit, maintenant, après, je vois pas. Et vous vous rendez compte de tenir des propos aussi catégoriques sur des gens dont on ne connaît rien, quoi. Rien que par ensuite la manipulation et cette pseudo-objectivité que sont les médias. Et je dis ça sans prendre parti. Hein. C'est, moi, je suis du côté, encore une fois, juste de prendre le temps. De prendre le temps d'écouter, de m'ouvrir et de ne pas être dans quelque chose que je reçois et que je digère sans essayer d'éveiller ma conscience. Et là, en fait, je me suis dit qu'il y avait un terrain extraordinaire. C'était, en créant un héros serbe, bah justement de m'intéresser à quelque chose d'inconnu. C'était un peu comme de choisir de traverser le désert. Parce que ça répondait à rien en moi. C'est, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut citer un musicien serbe, un grand écrivain serbe, et qu'on a vraiment lu, vous voyez? Et après, ce qui m'intéresse, on parlait de cette incarnation. Et c'est là où on peut vraiment rentrer dans cette question, c'est qu'après, il faut lui donner corps à ce serbe. Donc il faut que je connaisse ses habitudes, ses réflexes, sa langue. Et ça, que ce soit pas du savoir Wikipédia, que ce soit pas ce qu'on trouve en tapant sur Internet. Parce que justement, c'est ce dont je ne veux pas pour avoir une vraie voix pour l'écriture. Et là, j'ai rencontré des Serbes incroyables. Ça a été vraiment... Je me suis un jour, j'ai appelé ma mère et j'ai dit, maman, alors est-ce que ça te dérange s'il y a... Alors, je sais plus s'ils étaient 6 ou 7. S'il y a 6 Serbes qui viennent déjeuner à la maison. Et alors, elle était un peu surprise par la question. Et... vous voyez, comme quoi c'est bizarre, hein, pourquoi ça nous surprend quand on dit ça, quoi. C'est, voilà, c'est 6 Serbes qui viennent manger à la maison. Et ça a donné une tablée incroyable, parce qu'eux, ils rêvaient de venir manger dans une famille française. Et moi, j'avais l'impression d'avoir plusieurs rancos à table, vous voyez. C'était... Et là, ils m'ont appris des proverbes magnifiques, par exemple. Ils m'ont dit, à qui appartient les moutons, appartient la colline. Et ça, on ne trouve pas ça sur Internet. Il y en a une autre qu'on trouve, un autre...
Oui, il y a des devises serbes.
Dans Haute-Voltige, oui, c'est... Ça, je l'adore, c'est... qui se réveille tôt le matin attrapera de bonheur. Je la trouve magnifique. Je la trouve, je ne sais pas, elle a une sorte de beauté, un peu comme quand vous lisez Le Petit Prince, vous voyez. Et ça m'intéressait. Je me suis dit, ben tiens, on est dans quelque chose de bien plus humain. Hein. Et le tout, c'est toujours de retrouver l'humain, quel que soit le domaine. Et après, quand ils m'ont dit que, quand ils étaient enrhumés, eh ben, eux, ils se mettaient... en fait, j'adore cette anecdote. Nous, quand on est enrhumé, ben, on prend des sirops. Et alors, eux, ils me disent, ben, quand je suis enrhumé, ben, je prends de l'eau de vie. Jusque-là, ça va. Le serbe avec l'eau de vie, on peut arriver à l'imaginer. Et il prend de l'eau de vie, il fait chauffer l'eau de vie. Et puis, il prend un tissu, il plonge le tissu dans la casserole. Et après, il se met le tissu plein d'eau de vie autour du cou et il le laisse comme ça. Et là, je me disais, ça y est, je suis vraiment en train de rentrer dans la peau de mon serbe. Là, si je suis capable de savoir qu'est-ce qu'il fait quand il a pris froid, c'est bien plus intéressant déjà que de me borner à des clichés, en fait. Hein. La littérature, pour moi, elle n'est pas du côté du cliché. On doit vraiment s'attaquer à ce savoir mort... et qui n'est pas sincère. Le cliché n'est pas sincère. Et la littérature, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste du côté de la sincérité.
Donc Haute Voltige va se déployer comme ça, avec donc la traque de ce Gecko, ce Ranco qui est totalement qui est donc un voleur totalement imprenable, et donc le milieu de l'art et de la boxe, parce que, et donc là on rejoint Enki Bilal, on rejoint donc son univers où il crée, moi je ne le savais pas parce que je ne suis pas amatrice à la base, mais où il crée le chess boxing, qui est une discipline qui existe maintenant vraiment. Donc vous parlez du parcours de avec des personnages comme Simon Nogueira, il faut le voir.
Ah, je ne connaissais pas celui-ci.
Il faut le voir, il faut voir les vidéos, c'est vrai que c'est incroyable, les vidéos de parcours avec un K, ou de free running, comme on dit. Donc c'est une sorte de, voilà,
de voltige aérienne.
C'est chorégraphié en plein vol, c'est absolument ahurissant. L'univers donc du chess boxing, donc c'est ce sport qu'a inventé finalement Enki Bilal pour Froid Équateur, et qui mêle des rounds de boxe et des rounds de jeu.
C'est complètement fou, j'imaginais. Hein, c'est la même personne en fait doit alterner des rounds de boxe et des rounds d'échecs. Donc c'est des parties d'échecs rapides. Hein.
Et il s'agit de voler une toile.
Voilà.
De voler cette toile.
Qui était vraiment la toile qui était exposée chez Arcurial lors du combat de chess boxing que j'ai pu voir dans cette maison de vente aux enchères.
Je n'ai plus que l'imprimer de façon petite comme ça. Mais...
Et ça, c'est le plaisir de l'écrivain, vous voyez, c'est que cette scène, je l'avais vraiment vécue il y a plusieurs années, donc de voir ce combat, c'est stupéfiant. Hein. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus difficile que d'alterner, mais immédiatement, de passer hein, comme un vice-versa, vous voyez, des échecs et de la boxe, avec la même personne, hein, le même combattant. Ça, je trouvais ça fou. Et je me souviens que quand j'ai vu ce combat, donc avec Enki Bilal, avec vraiment Charlotte Rampling qui faisait les commentaires, et vraiment le commentateur, c'était Jean-Luc Chabanon, qui est un ancien vice-champion de France d'échecs. Et donc j'ai vu cette toile, et je me suis dit, là, en tant qu'écrivain, je ressens une sorte de frisson, mais de frisson de me dire, mais c'est grandiose. Il y a quelque chose qu'il faut arriver à cristalliser par l'écriture, au sens vraiment de cette cristallisation qui va donner des reflets. Et donc, des années après, je me suis dit, il faut créer un combat. Pour le roman, il faut vraiment créer un combat. Donc, j'ai demandé à un grand maître international d'échecs, qui s'appelle Scorpen, qui aujourd'hui est devenu un grand magicien. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que devient un joueur d'échecs après, quand il arrête. Il devient un super magicien, un super illusionniste. Et vous imaginez, il a toujours un coup d'avance en plus. Là. Donc j'ai dit à Scorpen, je l'ai rencontré pour Haute Voltige, j'ai dit voilà, il faudrait qu'on bâtisse une partie incroyable pour le roman. Comme avec finalement Jean-Michel Durier dans Quai des Enfers, le parfumeur, comme j'avais dit, il faut qu'on crée le parfum du roman qui corresponde exactement à l'esprit de Quai des Enfers. Là, c'était ça, vous voyez, il y a Scorpène en face de vous et vous lui dites, il faut qu'on invente une partie où on a tel personnage. Il y en a un qui a un côté plus romantique, plus fou, un autre qui est plus taiseux, qui est moins dans la spontanéité. Donc qu'est-ce que ça donne comme partie, mais une partie vraiment folle. Et ça, c'est beau, parce que cette partie d'échecs, elle n'a jamais existé, mais c'est la partie dont un grand joueur d'échecs aurait pu rêver, c'est la partie que Scorpène aurait pu rêver jouer, et qu'il a bâtie spécialement pour le roman, pour Haute Voltige, et avec une sorte de folie qui, pour moi, est justement le roman. Le roman doit tout se permettre. Et ce qu'il y a de beau, c'est que dans le monde des échecs, ils disent, tiens, ça c'est une partie... On aurait pu vraiment rêver d'une partie comme ça. Et après, ce qu'il y a de fou, c'est de prendre vraiment Jean-Luc Chabanon, qui était celui qui commentait le combat de chess boxing chez Arcurial, et de dire, voilà, Jean-Luc, ce serait vraiment formidable si vous commentiez la vraie fausse partie du roman, enfin la vraie partie fictionnelle du roman. Et là, Jean-Luc a vraiment joué admirablement le jeu, enfin... Il m'a envoyé une vidéo où il commentait tous les coups, et quand j'ai vu cette vidéo, mais j'avais les larmes aux yeux, je me suis dit, mais c'est le roman, il prend corps pour le coup, là, il est en face de vous, il est porté par des gens, et en même temps il est dépassé par l'imaginaire, c'est-à-dire l'imaginaire s'empare de tout ça, et je vois ce que je vais en faire, je vois comment je vais étirer cette patte à l'infini. Et après, ben, pareil avec la boxe. Donc de prendre un vice-champion de France de boxe, un ancien qui est Dominique Delorme, et de lui dire, ben, Dominique, voilà, entraîne-moi un peu, montre-moi qu'est-ce que ça pourrait être les coups, explique-moi vraiment ce qu'on ressent quand on monte sur le ring. Et il y a des passages que j'adore dans Hot Footage où en fait il prépare le héros au combat de boxe. Hein, et c'est tous les passages où, avec coach Daddy Pierrot qui a entraîné plein de champions. Et Dominique, ben, ils m'ont transmis aussi ces gestes et où j'ai senti. Et c'est Dominique Delorme qui un jour, donc, quand il m'entraînait, il me dit, j'ai eu le malheur de poser mes gants par terre. Mais 2 secondes, c'était vraiment infime, quoi. Et il me regarde, il me dit, on pose pas les gants par terre. Et là, je comprenais pas exactement pourquoi le ton était aussi catégorique, hein. J'ai senti que là, on plaisantait, mais alors pas du tout. C'est un peu comme quand vous êtes au stand de tir et qu'il faut vraiment garder le doigt, vous savez, le long du pontet, parce que il faut pas déconner avec ça, quoi. Et donc là, il me dit, Philippe, explique-moi un peu, Dominique. Et il me regarde comme si c'était mais une évidence. Il me dit, parce qu'un gant, ça touche le visage. Donc on pose pas un gant par terre. Et là, vous comprenez tout l'esprit de la boxe. Vous comprenez que c'est pas parce qu'on frappe quelqu'un qu'il n'y a pas des règles et qu'il n'y a pas de respect et que en fait ça doit être quelque chose de très ritualisé et qui engage vraiment la personne, c'est-à-dire il faut un respect de l'adversaire si on veut être vraiment dans un combat qui respecte l'esprit de la boxe. Et donc un gant, on met pas un gant par terre, c'est par terre on foule le sol, on met les pieds, c'est sale et là c'est ça qui m'intéresse. Et ça, mais aucun savoir sur Internet qui peut vous donner ça. Il n'y a que la rencontre humaine. Et c'est ce qui fait que c'est beau, c'est que rien ne pourra jamais remplacer ce rapport qu'on peut avoir avec quelqu'un entre quatre yeux et où là où il va vous expliquer la vie. Et ça donne ensuite cette partie qui est retranscrite à la fin de Haute Voltige et qui est la vraie partie commentée par Jean-Luc Chabanon et créée par Scorpène.
Et donc justement, moi j'aime beaucoup aussi le parallèle que vous faites aussi avec l'écriture, la boxe, l'escalade. À un moment vous dites, c'est Cédric, donc son coach, son entraîneur sportif qui lui donne des conseils à Ranko, puisque Ranko donc est tenu de perdre en fait un combat, mais de gagner.
Ça me rappelle qu'il y a un troisième, troisième boxeur, très grand boxeur qui m'a aussi parce que oui il y en a parce que encore une fois c'est pas du copier-coller, donc c'est pas, même s'il y a un personnage derrière, il y a plusieurs inspirateurs et ensuite cette transfiguration par l'imaginaire, donc c'est jamais quelqu'un, même si c'est son vrai nom. Par exemple, il y a vraiment un Kibilal dedans, il y a vraiment le professeur Safran, qui est cet incroyable Denis Safran, qui était vraiment le chef de service de réanimation de Pompidou, qui a sorti un livre aussi. Hein. Et donc, il y a vraiment Denis Safran. Mais en même temps, c'est Denis Safran vu par l'œil de la littérature. Vous voyez, il y a vraiment Jean Guillou aussi, qui est quelqu'un que j'adore à la fin, vous verrez. C'était un des plus grands organistes. C'était l'organiste de Saint-Eustache. Et j'avais vu Jean Guillou jouer Bach dans Saint-Eustache. Et le jour où j'ai vu Jean Guillou, mais pareil, c'est comme lors du combat de chess boxing. Pareil, vous tremblez, vous êtes en état d'émotion comme ça intense et vous vous dites, mais c'est tellement sublime qu'il faut graver Jean Guillou, il faut le mettre comme ça, comme dans un écrin, comme ça, un écrin de mots, parce qu'il est tellement incroyable, il touche tellement au sublime qu'il faut que la littérature, elle garde en mémoire. Ça, c'est un travail de la trace après. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que la ligne d'écriture, c'est comme le trait, finalement, de dessin d'Enki Bilal, mais la ligne, c'est un sillon, c'est vraiment une trace, c'est une mémoire, quoi. Et ça fait partie de mes convictions. Donc de travailler toujours l'écriture comme mémoire. Ce qui fait à nouveau qu'on est très très loin du fameux page-turning.
Donc il dit Ranko avait hoché la tête, oui, parce que Ranko est un personnage de taiseux, de solitaire, qui n'a pas les mots, parce qu'on comprend qu'il y a eu un traumatisme aussi avec la guerre de Yougoslavie qui le hante totalement. Donc là, il comprenait les mots ricochés, ne pas être prisonnier d'une mentalité, s'assouplir, élargir son champ de vision, décoller de la situation, comme aux échecs, comme en escalade. Et donc là, on comprend bien aussi la geste de l'écrivain qui abolit les frontières, comme vous dites depuis le début, et auquel chacun de vos romans invite. Et j'aimerais, si vous me permettez, de vous demander de lire un passage de Voltige pour faire entendre cette sensualité des mots, justement, le passage, peut-être du festin, le passage des esturgeons, le passage, un passage de votre choix, si ça vous intéresse.
Après, il faut se dire que justement, comme c'est riche de plein de langues, ce ne sera pas représentatif de
tout, non, mais bon,
tout,
voilà.
Quoi. Ce sera un petit fragment de cet univers, mais je ne sais pas, vous me posez une question terrible, là. C'est la première question terrible depuis le début.
Choisir un extrait.
Je veux lire la dernière page, vous savez, c'est l'écrivain qui vous saccage ensuite la lecture. La découverte, non, on ne va pas faire ça quand même.
Il y a la devise en même temps d'Ingrid Astier qui est au début.
Ah oui, ça j'y tenais parce que je me suis sentie tellement trahie à chaque fois qu'on me disait « mais vous êtes un écrivain très documenté ». Et alors que je pense que vous avez compris avec tout ce que je vous ai raconté que vraiment, moi, le savoir mord des fiches, mais ça me terrorise. Enfin, c'est ce qui m'intéresse. C'est l'homme, au sens de l'homme et des femmes, c'est de rencontrer des gens, quoi. C'est de m'imprégner de leur langue, de leurs gestes, de leur mentalité. Donc, quand on me disait, vous êtes très documenté, mais à chaque fois, alors que les personnes ne s'en rendaient pas compte, pour eux, c'était une vraie façon de parler de mon travail, mais je me sentais trahie. Et j'en ai eu tellement marre de me sentir trahie parce que, si mince, si je meurs demain, si après on écrit, bon, Ingrid Astier est morte, on est le combien ?
Le 6... demain.
Le 6 mai le 7. 2017, cet écrivain très documenté, je me suis dit, mince quand même, il faut soigner son épitaphe, pas au sens de la vanité, mais au sens du respect de la vérité. Quand on travaille autant sur un roman, j'ai pas envie de laisser cette trace encore une fois. Donc je me suis dit, on va mettre un peu les choses au point, comme justement un coup comme ça qui va être tapé sur la table
un
et
point.
Dire, attendez, non, au moins me trahissez pas, je mets tellement de nuances dans ce que je fais que essayez juste de réfléchir à ça.
Donc l'épitaphe d'Ingrid Astier qui ouvre Otto Voltige.
Voilà, c'est mon épitaphe, comme vous dites, et c'est exactement ça. Le réel, non. Son essence, oui. Servir l'imaginaire, toujours. Voilà, pour moi au moins tout était dit, je pouvais mourir après, c'était bon quoi, vu que au moins on sait qu'on est tous mortels, que ça c'était la question était après il y a deux choses importantes, c'est de d'écrire, vous savez qu'il y a une dédicace un jour pour votre mère et puis après l'épitaphe. C'est les deux choses où moi après je peux mourir, c'est bon. Et après il y avait une citation d'un grand maître d'échecs qui est Xavier Tartakover, et qui dit, j'adore cette citation, « Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours. » Voilà, pareil. C'était parce que c'est un vrai roman sur le risque, et puis sur ce, encore une fois, ces frontières qu'on assouplit avec la littérature. C'est, il faut s'aventurer ailleurs. Il faut justement essayer d'approcher le serbe pour mieux le comprendre, pour retrouver l'humain. Il faut assouplir aussi les frontières du roman policier. C'est-à-dire que ça commence comme un vrai roman policier, avec cette scène, comme vous lisiez, d'attaque de la diligence, pour moi, qui est l'attaque du convoi des Saoudiens. Et là, c'est comme si on mixait Heat, vous savez, ce film d'attaque. C'est un peu comme si on mixait Heat avec les westerns. C'était ça, c'était vraiment mon motif littéraire. C'était d'accoupler les deux et de créer une attaque de la diligence aux portes de Paris. Et donc aussi de construire un roman qui commence comme un roman policier et où après, peu à peu, on plonge, on bascule dans le roman d'aventure et puis en même temps dans le roman d'amour. Évidemment, c'est...
Oui, tout à fait.
Donc, je défie quand même quiconque de dire qu'est-ce que c'est comme objet littéraire. Si c'est un roman noir, un roman policier, il y a vraiment une enquête. Mais en même temps, c'est, pour moi, c'est tout roman doit détruire la notion de genre. En tout cas, peut-être pas la détruire parce que c'est radical, mais l'assouplir. Et puis semer cette zizanie, vous l'avez compris, qui m'est chère. On est là pour le désordre, au bon sens du terme, pour la vie.
Alors, juste le premier chapitre.
Un jour, je serai au-dessus des nuages, et les hommes seront tellement petits qu'ils paraîtront un mirage. Un jour, je le promets, sur tout ce que je n'ai pas, sur tout ce que je n'ai plus, sur tout ce que je n'aurai jamais. Maintenant, les angoisses, vous pouvez vous barrer, toutes en rang serré. Ça commence encore comme un ultimatum. Vous voyez, c'est le deuxième ultimatum après le réel non. Et ensuite, on ne va pas prendre le tout début, parce que l'incipit, le vrai, pour moi, c'est ça. On va prendre un tout petit passage.
Peut-être avec le baptême dans l'aquarium d'Ilana. Moi, je trouve ce passage absolument stupéfiant de beauté, parce que c'est ça, quoi. C'est ce que vous...
Après, il faut le trouver. Il y a un passage que j'aime bien aussi. C'est un passage où il y a un dalmatien. Et j'ai adoré ce passage, parce que quand je vous dis qu'il faut être dans la peau des personnages, je peux vous assurer que je me suis mise dans la peau du dalmatien, mais avec une volupté, mais incroyable, parce que j'ai toujours rêvé d'être un dalmatien. C'est peut-être pour ça que c'est j'écris entre le blanc et le noir. Hein, j'adore les pandas aussi. Et tout ce qui est blanc et noir me fascine. Je trouve ça très, très beau. Et le dalmatien, je trouve que, vous savez, c'est un chien qui a beaucoup d'élégance, mais en même temps, il a une forme de comique. Il a une façon de trottiner, comme ça, qui est à la fois dans la nonchalance, dans l'allégresse, et puis... c'est comme s'il était au-delà de tout. C'est le dalmatien, finalement, il est très peu préoccupé par le monde environnant. Il a cette sorte de liberté, un presque ridicule, mais un ridicule que j'aime bien, qui est très touchant et en même temps super élégant. Donc là, on est encore une fois dans cette alliance du sublime et du grotesque. Et donc, il y a un passage avec un dalmatien. Et j'adore cette scène parce que quand je l'ai écrite, ben je trottinais vraiment avec le dalmatien sur la passerelle des arts. Et je trouvais que ça détend énormément de se sentir un dalmatien. Ça m'a fait du bien. Pas toujours sentir des voyous et des policiers.
Parce que
policiers.
Même les animaux ont leur place vraiment dans le...
Oui, il y a un peu de tout. Il y a des perroquets, des chats, des chiens,
des esturgeons.
J'adore les esturgeons, ça me fascine. Vous savez, on parle toujours du caviar, mais est-ce que vous avez vu comment c'est beau un esturgeon ? C'est un ventre magnifique. Et alors, pareil, je me dis, mais c'est quand même triste de voir que ce qu'on mange. Il y a aussi la bête, elle est magnifique. Hein.
Là, c'est dans ces cépages-là. Alors, le passage qui vous. Donc, où Ilana plonge dans cet aquarium, sur cette péniche.
On va vraiment faire un hommage aux esturgeons. Parce que j'adore ces poissons, ils me font rêver. Alors, même, vous disiez, les animaux ont une place, et même les meubles ont une place dans le roman. J'ai de l'amour, il n'y a pas d'autre mot, pour un meuble qui s'appelle le bureau Goulden, qui appartenait à Félix Marcillac, qui avait cette grande collection en fait, incroyable, hein, qu'il a vendue, parce qu'il estimait qu'on ne pouvait pas hériter d'une collection d'art. Donc, pareil, ça, c'est aussi toute la question de haute voltige, c'est à qui appartient l'art ? À qui appartient l'art ? Est-ce qu'on peut sortir comme ça, brandir plein d'argent et acheter une toile ? Est-ce que c'est vraiment ça, aimer une œuvre d'art ? Est-ce que c'est la personne qui la mérite le plus ? Vous voyez, je trouve ça important. Et donc, il y a un bureau, le bureau Goulden, que je trouve incroyable. Il est beau. Vous ne pouvez pas savoir comment il est beau, encore plus que le dalmatien, presque. Il est fait... Oula, j'ai cru que j'allais tout faire tomber. Et enfin, vous verrez, il est décrit dans le roman avec ses ailes de papillon presque. On dirait aussi des montagnes japonaises. Enfin, c'est incroyable. Donc, ça, c'est la correctrice de Gallimard qui m'avait dit, mais même le bureau Goulden est un personnage. Et elle avait peur. Elle m'a fait rire parce qu'un jour au téléphone, elle m'a dit, mais dans cette scène-là terrible, je ne vous dis pas laquelle, je dis, mais j'avais peur qu'il arrive quelque chose au bureau Goulden. Et je crois que c'est la plus belle phrase qu'une correctrice m'ait jamais dite de ma vie. Quoi. Si, tiens, elle était dans ma peau. Elle était vraiment dans ma peau. Ça s'appelle Corinne Molette, elle est incroyable. Alors, allons-y, on va passer à la lecture. Alors, donc, c'est en parlant du bureau Goulden. Il ne s'ouvre pas à l'horizontale. Non, c'est l'un de ses traits de caractère. Comme une personne, Ilana. Ce tiroir se déploie en pivot, là, vers vous. C'est lui qui reprend la main. Il s'offre, non ? On a envie d'y cacher son cœur. Dans le regard d'Ilana... brilla une curiosité amoureuse, comme si deux libellules miroitaient dans les iris. Sacré chanceux que ce tiroir, alors. Astrakhan se rapprocha discrètement et, à son tour, s'agenouilla. Il encercla de ses bras le dos d'Ilana. Il te plaît, hein ? Il me plaît comme une étoile dans le ciel. Alexandar les pria de se pousser pour ouvrir l'abattant. Waouh ! Il tient tout seul, sans support. Je ne savais pas qu'un meuble pouvait être un magicien. Dit-elle, conquise. L'intérieur était en daim violet et cette couleur plongea Ilana dans une révération mystique. « Qu'est-ce ? » dit-elle en attrapant une bonbonnière en cristal satinée ornée de jolies frises. Des caramels Jacques Génin, un autre trésor. Celui-là, désolé, je le garde pour moi. Ilana continua d'ouvrir les tiroirs, elle en désigna un au centre. Vous saviez qu'il y a une photo jaunie à l'intérieur ? Oui, c'est une ancienne photographie de Marcillac et de sa femme. J'avoue ne pas la leur avoir rendue. Alexander, ce n'est pas un bureau, c'est un sortilège. Dieu qu'elle avait des lèvres ourlées, se dit Lucas. S'il n'y avait eu Astrakhan, il l'aurait bien embrassée. D'une certaine façon, je tiens encore plus à mes esturgeons, Ilana. Elle ne le crut pas, il plaisantait ou quoi ? Astrakhan hocha la tête et sourit. Il savait que l'histoire plairait à Love Love. Love Love, c'est Ilana. On les appelle les Léviathans, Ilana, vous savez pourquoi ? Franchement, non. Les esturgeons sont là depuis 300 millions d'années. Les dinosaures étaient des jeunes premiers à côté. On les trouve. Ilana regarda le défilé des poissons et éclata de rire. On les trouve en eau douce comme en eau salée et ils peuvent vivre 100 ans. Voilà pourquoi, Ilana, j'estime avoir beaucoup plus à apprendre des esturgeons que des hommes. Vous êtes un cas, vraiment un cas. Et après, il y a la danse des esturgeons dans l'aquarium, donc ça, je ne peux pas vous dévoiler cette danse qui vaut bien la danse des sept voiles, vous verrez.
En tout cas, merci de nous avoir lu ce passage qui résume bien aussi cette ouverture des tiroirs, cette boîte de Pandore qui est votre roman qui va déclencher...
Quelle belle conclusion,
c'est vraiment ça. Qui va déclencher des mondes pour le lecteur. Merci beaucoup.
C'est ça, c'est l'ouverture des tiroirs. Pour moi, un roman n'a pas de fin. Mm. Un roman n'a pas de fin, il s'ouvre à l'infini. Et d'ailleurs, même s'il fait plus de 600 pages, je vous conseille vraiment... Si vous pouvez me donner ce temps, vu que tout est question de temps dans la vie, mais de relire Haute Voltige une deuxième fois. Et vous verrez, quand je vous parle des tiroirs, de tout ce qui va s'ouvrir, qui était passé sous silence, en fait. Voilà, parce que l'œil est très paresseux, comme on est bombardé d'images, en fait. Vous ne vous rendez pas compte combien, en fait, l'œil ne voit plus. Nous sommes des aveugles, donc les romans sont faits aussi pour qu'on réinvestisse le regard.
Merci Ingrid Astier de ce voyage dans votre nuit intérieure et d'être notre guide aussi.
Merci à vous.